vous suit.
Voici les titres du journal.
L'association de la jeunesse Aiglon était à la fête ce week-end. Après une longue attente, elle est de retour dans ses locaux historiques. La culture japonaise a envahi le théâtre du Crocheton à Monthey ce week-end. Deux jours pour se plonger dans l'univers de la pop culture et du cosplay grâce au festival Destination Tokyo. Alexandre Astier, le créateur à succès de la série Kaamelott, était à Genève ce week-end. Il a reçu un prix d'honneur au GIF. En football, le FC Sion a ramené un bon point du Parc Saint-Jacques hier soir. Et en basket, la trêve internationale arrive à point nommé pour le BBC Monthey-Chablais qui reste sur 3 défaites consécutives.
Du soleil pour cet après-midi et pour demain aussi du soleil, mais avec un peu plus de nuages. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Une inauguration longtemps attendue a eu lieu ce week-end à Aigle. 2 ans que le comité de l'association de la jeunesse Aiglon attendait d'inaugurer officiellement ses nouveaux locaux du centre-ville. Pour ce retour dans les murs historiques où l'AJA avait débuté il y a près de 40 ans, il aura fallu attendre que passe la pandémie, mais aussi qu'une date soit trouvée dans l'agenda chargé de l'association très active dans les manifestations locales. Après avoir dû quitter les lieux dans la précipitation en 2010, le comité s'est démené pour revenir dans les murs du bâtiment, propriété de la Fondation Clin d'œil. Et pour la nouvelle présidente de la Fondation, Maud Alora, également municipale chargée de la jeunesse à Aigle, cette collaboration est appelée à durer.
Moi, j'ai envie que l'AJA reste jusqu'à ce qu'ils aient plus envie d'être là. Mais voilà, j'espère le plus longtemps possible. Et puis, le but de la fondation, c'est vraiment d'entretenir ce bâtiment. D'ailleurs, on va entreprendre tout bientôt une recherche de fonds pour pouvoir refaire la toiture et encore aménager des bureaux pour les animateurs qui soient un peu plus pratiques et utilisables pour eux.
Et du côté de l'équipe d'éducateurs, ce retour au centre-ville est également une victoire. Pour Célia Dumoulin, animatrice socioculturelle à l'AJA, c'est précisément là que leur travail a sa raison d'être.
Ça faisait longtemps qu'on voyageait à travers la ville, avec des locaux plus ou moins bien, plus ou moins adaptés. Les jeunes nous ont toujours suivis et ça c'était vraiment positif, malgré les différents endroits où on était allés. Mais on est content d'être de retour, c'est important pour moi de mettre la jeunesse au centre de la ville. C'est-à-dire que là on peut vraiment apprendre aux jeunes à vivre en société, comment on se comporte dans une ville avec d'autres gens autour, plutôt que quand on est en périphérie.
Un sujet de Martine Huistiner.
Martigny prévoit un budget 2023 légèrement déficitaire.
Le découvert se monte à un peu plus de 695 000 francs. La marge d'autofinancement de quelque 6,8 millions ne permettra pas de couvrir les investissements planifiés, parmi lesquels figure en priorité la construction d'une école primaire. La ville devra donc recourir à l'emprunt. Le montant brut des investissements s'élève quant à lui à près de 27,7 millions de francs, dont 19 sont à la charge de la municipalité. Le Conseil général se prononcera sur ce projet le 13 décembre prochain.
Le festival Destination Tokyo a mis le théâtre du Crocheton à Monthey à l'heure japonaise, ce week-end.
Et oui, dans ce salon dédié à la culture japonaise, différentes activités en lien avec la pop culture ont été proposées. Et mais je recommence ma phrase. Et oui, effectivement, rigole pas Axel. Effectivement, dans ce salon dédié à la culture japonaise, différentes activités en lien avec la pop culture ont été proposées aux visiteurs. Manga, initiation, conférences, cosplay, il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges. Les concours de cosplay sont les événements principaux du festival. Les gens se déplacent pour voir les créations réalisées à la main ainsi que les mises en scène personnalisées des participants et ainsi se laisser entraîner dans leur univers. Un jury évalue tant le costume que le jeu d'acteur des cosplayers. Il ne s'agit donc pas d'un simple défilé, comme l'explique Michèle Lugon-Moulin, directrice du salon Destination Tokyo.
Voilà, alors le but du cosplay aussi sur scène, c'est l'aspect playing. Donc il y a le costume et le playing. Donc playing, c'est vraiment faire le roleplay du personnage, c'est-à-dire qu'ils doivent incarner le personnage et il faut qu'ils aient l'air le plus possible comme lui sur scène.
Pour certains participants, la passion du cosplay est venue très tôt, comme l'explique Camilla Lorchacon, alias CL Conception.
Alors, faut savoir que depuis toute petite, j'étais sur scène parce que ma maman faisait des spectacles avec ses classes de musique. Et du coup, ben, quand on a fait sa première scène à 3 ans, on est très vite attiré par ce type de hobby. Quand j'étais adolescente, j'ai vu mon premier concours à 15 ans. Je crois que c'était un polymanga. Je me suis dit, je veux faire ça. Et l'année suivante, j'étais sur scène avec ma première armure en papier mâché.
Comment est-ce que vous avez appris à créer tout ça ?
Il y a beaucoup de choses en autodidacte parce que j'adore explorer plein de nouvelles techniques et du coup ben, je me renseigne sur internet, je regarde comment font les autres personnes. Toute l'élaboration de quel matériau va être utilisé pourquoi, c'est une période hyper importante et qui me passionne énormément. Et sinon j'ai fait un diplôme de couture en plus parce que la couture ça s'invente finalement pas vraiment et c'était mieux pour avoir des finitions clean que j'apprenne ça auprès de professionnels.
Un sujet réalisé par Martine Justiner. La hausse cosmétique du nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement n'a pas entamé la santé du marché de l'emploi helvétique en octobre. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est demeuré stable à 1,9%. Sur un an, le nombre de chômeurs a chuté de près d'un quart, détaille aujourd'hui le secrétariat d'État à l'économie dans son point de situation mensuel. Les cantons latins s'inscrivent tous au-dessus de la moyenne nationale. Fribourg et le Valais font figure de premier de classe avec un taux de chômage à 2%. Les rangs du fond restent occupé par Genève, 3,8%, derrière le Jura, 3,4%, et le canton de Vaud, 3,1%.
Le gras, c'est la vie, ou encore c'est pas faux.
Même si vous n'êtes pas un expert, vous avez forcément déjà entendu ces répliques cultes de la série Kaamelott. Son créateur Alexandre Astier a reçu samedi le prix Film and Beyond Award au GIF, le Festival International de Cinéma de Genève, pour l'ensemble de sa carrière. Une carrière déjà bien remplie avec les 6 saisons de la série Kaamelott, un premier long métrage, des films d'animation sur la saga Astérix et la liste est encore longue. Alexandre Astier est un touche-à-tout, réalisateur, acteur, auteur, compositeur, scénariste, producteur ou musicien, et recevoir ce prix l'a quelque peu décontenancé.
Comme c'est un prix un prix d'honneur, hein, ça fait un peu posthume, quoi. J'ai un peu l'impression d'être décédé, mais bon, c'est très flatteur, bien évidemment. Mais il y a un côté un peu, si c'est pour l'ensemble de ma carrière, si j'en suis le libellé de ce prix qu'on me dit, j'avais quand même un peu dans l'espoir que ça soit pas tout à fait terminé. Donc, puis si ça se trouve, ça récompense la partie de ma carrière qui est derrière, en se disant peut-être que la suite de sa carrière va être complètement ratée, et donc il faut quand même récompenser ce gars alors que c'est pas encore tout à fait dans la déchéance. C'est-à-dire que il y a encore un artisanat, et le mec c'est encore à peu près bossé, mais après, qui nous dit qu'il va pas sombrer dans des merdes pas possibles, et du coup, il faut le récompenser à temps.
Après, la série Kaamelott est devenue un film en 2 parties. Le premier volet est sorti l'année passée, le deuxième est en cours d'élaboration. Un véritable univers qui n'a cessé d'évoluer en 2 décennies, comme nous l'explique Alexandre Astier.
Kaamelott, c'est un monde étendu. Il y a de la série, il y a de la BD, il y a des longs métrages. Mais ce monde étendu-là, avec sa musique et tout ça, c'est plutôt ça que je considère comme étant Kaamelott. C'est un monde que je raconte sous plusieurs aspects, avec plusieurs périodes, avec plusieurs humeurs aussi, parce que j'essaye d'écrire selon qui je suis au moment où j'écris. J'ai commencé à écrire ce truc-là, c'était en 2002, hein, donc ça fait quand même complètement 20 ans. Du coup, je suis plus le même gars, je suis plus le même auteur, je suis plus le même mec, et j'écris avec ce que je suis aujourd'hui. Je cherche pas à coller à une tradition Kaamelott. Au contraire, j'essaye de faire en sorte que Kaamelott soit jamais le même et qu'il progresse en même temps que le bonhomme qui l'écrit, en même temps que les acteurs qui le jouent, en même temps que le monde change, et j'espère que ça en fait une particularité appréciable du truc.
Alexandre Astier était au micro de notre consoeur de One FM. Ça grenouille dans les officines des 2 partis politiques qui doivent remplacer un conseiller fédéral à l'UDC et au Parti Socialiste. La commission de sélection de l'UDC doit donner ce vendredi un préavis sur les candidatures déposées. Le groupe parlementaire choisira le ticket vendredi 18. Avec cette question, quel favori bernois pour faire équipe avec le Zurichois Hans-Uli Vogt, Albert Rösti ou Werner Salzmann? Au Parti Socialiste, il n'y a pas encore de candidate déclarée à la candidature et un potentiel candidat homme fulmine. Les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Commençons par celui qui fulmine, c'est le Zurichois Daniel Josic. Il juge discriminatoire l'option prise par la direction du Parti Socialiste de n'ouvrir la succession de Simonetta Sommaruga qu'à des femmes. Il s'entretiendra avec les médias demain à Berne. Il risque d'être le loup dans la bergerie socialiste. Comme ce fut le cas à l'UDC à l'annonce de la démission d'Ouali Morer, on compte d'abord les désistements, cette fois parmi les femmes socialistes. Ne sont donc pas candidates les Zurichoises Mathéa Meyer, Priska Zeilergraf et Jacqueline Fer. La Saint-Galloise Barbara Ghisi, la Tessinoise Marina Carobbio, la Bernoise Nadine Massard et les Vaudoises Rebecca Ruiz et Nouria Gorité.
Mais alors Serge Jubin, le PS dispose-t-il vraiment d'un vivier de candidates ?
6 noms sont articulés et les pressentis disent réfléchir. 4 font figure de favorites. D'abord, l'ancienne parlementaire fédérale argovienne, Pascale Bruderer, 44 ans. Elle présidait le Conseil national à l'élection de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Ensuite, la conseillère aux États et ancienne ministre baloise Eva Herzog, avec un bémol, son âge, 60 ans. Puis les quadras bernoises Evie Lehmann et Flavia Wasserfallen. Étonnamment, le nom de la maire de Zurich, Corinne Maur, n'est pas évoqué, peut-être en raison de son âge, 60 62 ans. Il y a encore deux outsiders de 58 ans, la Turgovienne Edith Litscher-Graf et la Jurassienne Elisabeth Baumschneider. Ils et elles ont jusqu'au 21 novembre pour déclarer leur candidature. Ils et elles vont à n'en pas douter utiliser les 15 jours qui viennent pour attirer les feux des médias, tenter de faire profiter au PS de cette campagne éclair et au passage essayer de faire de l'ombre à l'UDC.
C'était les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin. L'Assemblée fédérale élira les deux nouveaux conseillers fédéraux dans tout juste un mois, le 7 décembre prochain. Quelques 40% du charbon mondial est négocié depuis la Suisse, alors que le pays s'est engagé à sortir totalement de cette source d'énergie, dénonce l'ONG Public Eye en marge de la COP27. Greenpeace déplore de son côté que la place financière helvétique se trouve sur une trajectoire allant jusqu'à 4 degrés de réchauffement. À l'étranger, la SNCF a annoncé aujourd'hui à l'AFP ne pas faire appel de sa condamnation pour homicide et blessures involontaires dans la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge de 2013. Cet accident avait fait 7 morts et des centaines de blessés psychologiques ou physiques. Pour rappel, la SNCF a été condamnée le 26 octobre dernier à une amende de 300 000 euros, reconnue coupable d'avoir négligé la maintenance d'un élément d'un appareil de voie, ce qui a provoqué le déraillement d'un train après un procès de 8 semaines. La Chine a rapporté aujourd'hui son plus important nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 6 mois, malgré de multiples confinements qui perturbent l'économie et la vie quotidienne. Ce week-end, les autorités sanitaires ont douché les espoirs d'un assouplissement de la politique zéro Covid, en soulignant qu'elle continuera à être appliquée indéfectiblement. Cette stratégie consiste à confiner des quartiers ou des villes entières dès l'apparition de cas, à réaliser des dépistages massifs ou encore à placer en quarantaine les personnes testées positives et les voyageurs arrivant de l'étranger. On passe au sport. En football, le FC Sion a ramené un point de son déplacement au Parc Saint-Jacques hier. Au terme d'une partie qui n'a jamais atteint des sommets, les Valaisans ont quitté Bâle sur un match nul 0-0. Réduit à 10 dès la 57e et l'expulsion du Brésilien Baltazar, les hommes de Paolo Tramezzani peuvent se contenter de ce qui ressemble à un bon point de prix au vu des circonstances. Une semaine après une prestation très décevante face à Zurich, il n'y avait hier qu'un changement dans le 11 Valaisan au coup d'envoi. La titularisation de Kevin Boua à la place d'Ilias Chouareff sur la gauche de l'attaque sédunoise. Et pour le Genevois, l'analyse de cette partie se fait en deux phases, l'une avant et l'autre après l'expulsion de Baltazar. On écoute Kevin Bua.
Sur les 60 premières minutes, je pense qu'on méritait quelque chose de plus. Après, c'est vrai qu'avec le rouge, bah voilà, on subit, puis on a su faire le dos rond un petit peu et pas encaisser ce but. Puis je pense qu'on a fait une bonne performance dans l'ensemble. Donc voilà, ça, notre problème c'était de mettre ce premier but au fond. On l'a pas fait et puis au moins on n'a pas perdu. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que je revenais plus. On est toujours un peu frustré quand on commence pas un match ou quand on n'est pas en match. Mais voilà, j'ai essayé d'aider l'équipe au maximum et voilà, j'espère continuer comme ça.
Des propos recueillis à Bâle par nos confrères de Rhône FM. Au classement, le FC Sion est 5e à égalité avec Lucerne et Lugano. Il compte toujours 5 points de retard sur Servette, 2e et 4 d'avance sur l'avant-dernier Winterthur. Prochain rendez-vous mercredi avec un 8e de finale de coupe sur la pelouse de Ville.
En basket, Montaigne espère profiter de la trêve internationale pour se remettre sur les bons rails.
Les temps sont durs pour la formation valaisanne. Après un début de saison tonitruant, les jaunes et verts marquent le pas. Samedi, ils ont concédé une 3e défaite en l'espace d'une semaine. En déplacement sur le parquet des Lions de Genève, les hommes de Patrick Pembélé ont chèrement vendu leur peau. Mais ils ont fini par s'incliner 82 à 78 devant les Genevois. Pour les Montaisans, 15 jours de pause figurent maintenant au programme. Et cette pause va faire du bien, à en croire le joueur chablaisien Thomas Salman.
Bien sûr, elle va faire du bien. En plus, on va récupérer quelques joueurs qui étaient blessés. Maintenant, je pense que le plus important, c'est qu'on se repose tous. Voilà, on a vu que JJ, à la fin, il avait des crampes. Je pense que quand on joue tous 40 minutes, c'est un peu ce qui nous attend. Mais à nous de travailler de cette manière-là. Et puis, on savait que ça allait être un match difficile parce qu'on a peu de rotation. Maintenant, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur nous et pas penser à l'équipe contre qui on va jouer, en tout cas pour l'instant. Et voilà.
Thomas Salman au micro de Julien Massy. De son côté, le Vevey Riviera Basket est en pleine bourre. Grâce à leur net succès 104 à 76 contre Lugano, les Vaudois ont décroché un 3e succès d'affilée. De quoi souffler la 2e place du classement au BBC Monté-Chablais.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.